France Inter, le 18-20.
Et dire que la rentrée politique sera chaude, c'est un peu comme promettre Noël pour le mois de décembre. On a un peu l'impression que c'est tous les ans la même chose. Et en même temps, cette année, tout est inédit. Grande volonté d'agir, grande détermination, grande confiance. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Édouard Philippe, chef d'un gouvernement prié de serrer les rangs. Tout le monde sur le pont, l'heure est grave, sondage en baisse, loi travail en vue. Et c'est pas fini, il est moins fringant ce président, mais ça va pas beaucoup mieux du côté des socialistes et des républicains. Seule la France insoumise apparemment garde son cap, rentrée politique, le pouvoir. Affaibli, une opposition en morceaux. Bienvenue dans le téléphone sonne.
Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Et c'est Pierre, bonjour Pierre, qui c'est vous qui allez ouvrir le bal ce soir. Allez-y, on vous écoute,
oui,
et bienvenue,
merci.
Sur Inter.
Très honoré. Oui, je voulais simplement dire que je trouve que cette rentrée se fait beaucoup plus sous le signe de l'émotion que sous le signe de la réflexion. Je crois que chacun a des raisons d'être mécontent, à commencer par moi qui suis retraité, et je vais être pensionné de la CSG, sur la CSG, mes petits-enfants qui sont étudiants vont perdre 5 euros sur la PL, etc., etc. Ça veut dire en clair qu'on n'a pas compris quelle était la démarche. La démarche de Emmanuel Macron, qui est plutôt une démarche de solidarité dans laquelle tout le monde doit participer. Et cette démarche, il l'exporte d'ailleurs en Europe. Et je suis même surpris que nous n'ayons pas davantage supporté le discours d'Emmanuel Macron auprès des pays de l'Est. Parce que ça, c'est un vrai discours de solidarité. Et ça, c'est l'Europe qui est en jeu. Et je trouve très dommage que, on la use beaucoup sur la chute de Macron dans l'opinion plutôt que sur les vrais problèmes. Alors peut-être y a-t-il des problèmes de pédagogie derrière. Il serait temps de s'y mettre, mais je crois que le gouvernement a l'intention, effectivement, de garder la barre, de conserver la barre. Et il a tout à fait raison, mais d'être peut-être un peu plus pédagogue.
Voilà, pédagogie, il est temps de s'y mettre. C'est deux mots qu'on retient dans ce que vous nous dites également. Pierre, pour vous répondre ce matin, ce soir, autour de la table, Françoise, eh oui, ça va arriver plus d'une fois, je vous le garantis. Françoise Fressos du journal Le Monde, bonjour.
Bonsoir.
Brice Teinturier, là aussi, directeur général délégué d'Ipsos. Je ne vous salue pas comme ça, je ne me trompe pas entre bonsoir et bonjour. Gilles Wilkenstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès, et Frédéric Mettezo, et là aussi, chef du service politique de France Info. Qui veut répondre à Pierre pour commencer? J'ai dit France Info.
Oui, mais c'est pas
décidément
grave.
Qui veut commencer? Françoise Fressos. Quand Pierre nous parle de... On n'a pas compris, en fait, ce qui voulait. C'est un peu l'essentiel résumé en une phrase, finalement, en un mot, en tout cas, de ce qui se passe peut-être à cette rentrée.
Non, oui, moi, je pense qu'il y a un besoin d'éclaircissement. Il y a toujours un peu la tentation chez les présidents de la République de se dire, j'ai été élu sur un projet, donc j'ai pas besoin de refaire de la pédagogie. Je pense qu'au contraire, il faut en faire, notamment quand on a une ambition qui est la sienne de transformer en profondeur le pays. Donc il manque une explication. Je pense qu'il y a aussi une désorganisation entre l'exécutif, c'est-à-dire qui doit parler, qui doit imprimer. On voit bien que quelques ministres ont déjà pris la parole, mais que ça n'imprime pas. Et je pense qu'il y a un besoin du président de la République d'expliquer ce qu'il fait, alors que Emmanuel Macron, sans doute par contraste avec François Hollande, a essayé de se mettre dans la position de Jupiter, comme il disait, c'est-à-dire au-dessus des autres. Mais là, on lui demande vraiment d'expliquer
de revenir sur
ce qu'il
Terre,
veut.
En fait.
Exactement.
Expliquer, ça suffit, Frédéric Mettezo. Ça suffirait en tout cas pour le premier démarrage de cette rentrée.
Mais il faut d'abord expliquer, ça c'est certain. Ensuite, pour répondre directement à la question de Pierre, qui nous parlait d'émotion versus la raison. Peut-être que parfois, quand il y a trop d'émotion, on perd un peu le fil des choses. Le souci, c'est que à l'inverse, l'approche du nouvel exécutif a été totalement comptable. Ça rappelle finalement le retournement de Jacques Chirac en 95 ou celui de François Hollande dès 2012-2013. C'est une approche comptable. C'est on doit être dans les 3% des critères de convergence européens. Donc on rabote les APL, on supprime 850 millions d'euros aux armées. Est-ce que les mesures sont fondées ou pas? Est-ce qu'elles sont bien expliquées ou pas? C'est même pas ça le problème. La question, c'est à partir du moment où on a une approche exclusivement comptable et budgétaire, et a fortiori avec des critères qui sont toujours soumis à caution, les 3%, on se souvient que ça a été fait sur un coin de table au doigt mouillé, c'est pas vraiment le meilleur élément mobilisateur de l'opinion. Donc Pierre regrettait qu'on s'arrête et qu'on se limite aux baisses de la cote de popularité d'Emmanuel Macron. Inversement, quand on tient un langage comptable, bah on est aussi comptable de sa baisse dans les sondages.
Et en parlant de comptabilité, Brice Teinturier, est-ce que Emmanuel Macron se trompe pas non plus dans les chiffres, en fait, de ceux qui l'ont élu finalement? Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir doucement vers la bonne base du premier tour, là, d'accord? Mais ensuite, au deuxième tour, ce qui s'est passé est très différent d'une adhésion.
Mais oui, tout à fait. Je crois que dans la baisse de popularité qu'il faut malgré tout un peu commenter et essayer d'expliquer, de comprendre, il y a d'abord la faiblesse du socle initial. On a tendance à oublier que le premier tour de la présidentielle a donné 24% à Emmanuel Macron. François Hollande avait obtenu 28,6% et Nicolas Sarkozy 32%. Donc déjà, le socle de départ est malgré tout un peu plus friable, un peu plus difficile que pour les autres présidents. Ensuite, il me semble plus particulièrement là qu'il y a un hiatus, une tension qui est plus forte que jamais entre une situation internationale et nationale, une conjoncture où on dit aux Français « ça va mieux, les indicateurs virent au vert, etc., tout remonte », et des efforts et un projet de transformation qui sont demandés aux Français. Et là, cette tension, du coup, elle appelle encore plus d'explications que si on avait été dans une période qui restait extraordinairement difficile. Donc l'explication manque. Je parle d'explication et pas de pédagogie, parce que je pense que les Français ne sont pas des enfants et que ce terme en agace une partie. Mais très clairement, l'explication sur pourquoi il faut, de son point de vue, transformer le pays et surtout quels seront les bénéfices, les avantages que chacun pourra en retirer, ça, c'est un élément absolument clé.
Est-ce que c'est pour ça, peut-être, Gilles Finkelstein, qu'il paye assez cher sa fameuse phrase sur la France, les Français n'aiment pas qu'on réforme, les Français n'aiment pas la réforme, une manière de dire, de toute façon, je pourrais l'expliquer dans un sens, je pourrais l'expliquer dans l'autre, je pourrais l'expliquer dans n'importe quelle langue. Au final, de toute façon, le passage par la rue, il aura lieu.
Le mot réforme, peu à peu, ou même assez rapidement, a laissé place au mot de transformation, qui est le nouveau leitmotiv d'Emmanuel Macron et des membres du gouvernement. Je reviens sur le socle des 24%, sur la question que vous avez posée. Non seulement, comme le dit Brice Teinturier, ce socle est plus faible, et donc les 66% ou les 60% de députés, évidemment, peuvent être trompeurs, mais de surcroît, dans ces 24%, il y avait un pourcentage important de Français qui ont voté pour lui, non pas par adhésion, mais par un réflexe de vote utile. Et à cela, il faut ajouter, c'est un élément qui pèse aujourd'hui, le fait que, plus que les autres, la campagne électorale, et notamment la campagne présidentielle, a été une campagne sur la politique elle-même, et pas tellement sur les politiques publiques, et donc le contenu, l'intensité sur le mandat qui a été donné par les Français a été plus faible. Et donc je crois que tous ces éléments-là expliquent la situation dans laquelle il se trouve, qui de ce point de vue-là donc n'est pas surprenante. Après, pour revenir à la question de Pierre, la politique, c'est pas seulement de la réflexion, c'est aussi de l'émotion. Donc c'est une dimension qui doit être prise en compte par les gouvernants, quels qu'ils soient. Après, il a raison, c'est vrai que quand les choses vont mal, eh bien, on entend moins ce qui est fait et qui peut être intéressant. Le voyage en Europe de l'Est, qui avait des éléments intéressants sur la directive sur le détachement des travailleurs, qui est une question centrale. Et ce qui est très symptomatique, c'est ce qui s'est passé avec la Pologne. Le gouvernement polonais fustige l'arrogance, je le cite, d'Emmanuel Macron, s'est repris tel quel par beaucoup d'observateurs, sans dire qui parle, c'est-à-dire un gouvernement ultra-conservateur, réactionnaire, anti-européen.
Et qui parle, tiens, justement, c'est un peu la question de Claude. Bonjour, bienvenue sur France Inter, Claude. On vous écoute. Il n'est pas là. Eh ben, écoutez, si Claude n'est pas là, alors on va faire sans Claude. Vous vouliez rajouter quelque chose, Frédéric Mettezo?
Oui, Fabienne, sur cette phrase du président Macron qui dit « les Français détestent les réformes ». Je ne sais pas si les Français aiment ou détestent les réformes, mais des réformes, il y en a eu des kilos. Je notais juste pendant qu'on se parlait quelques réformes. Il y a eu des réformes des retraites, il y a eu des réformes de l'école et de l'université, il y a eu la privatisation partielle de France Télécom, la SNCF qui a été scindée en deux, des réformes innombrables des rythmes scolaires, il y a eu le passage à l'euro, il y a eu le redécoupage des régions. Donc je ne sais pas si les Français ont aimé ou détesté ça, mais les Français, des réformes, ils en ont eu des kilos et des kilos. Donc à force de faire trop de réformes, ça s'est dénaturé et ça peut être un peu anxiogène quand on voit tous ces éléments de la vie quotidienne qui ont changé sans mise en perspective. On a l'impression qu'à chaque fois, il faut s'adapter à telle ou telle recommandation européenne, pallier telle ou telle urgence. Et finalement, où est le cap quand on voit tout ce qui a été fait, tout ce que je viens d'énumérer? Et j'en ai sans doute beaucoup oublié.
Et puisqu'on a retrouvé Claude, j'aimerais qu'on l'entende. Bonjour Claude, vous êtes en direct sur Inter.
Oui, bonjour. Moi, je vois pas très bien la différence entre les politiques qui vont être menées par le Macron et ses gouvernements ou son gouvernement et celles qui ont été menées par Sarkozy, par Hollande. C'est-à-dire, je précise un petit peu, quoi, c'est le respect de la règle sacro-sainte des 3% de déficit autorisé dans le cadre de la monnaie unique. C'est les classes moyennes dont on voit tout de suite qu'elles sont mises à contribution comme elles l'ont toujours été. C'est une énième réforme des retraites dont on sait que ça va pas apporter beaucoup de choses et au contraire ça va coûter cher aux retraités. C'est le blocage des salaires, c'est la réduction des du fameux coût du travail, puisqu'on ne parle plus de salaire et puis de bienfaits du travail, mais on parle toujours de coût du travail. Enfin voilà quoi, un petit peu en vrac ce que je ressens.
Et on a bien compris, Françoise Fressoz, est-ce qu'on peut faire une différence entre les politiques de Nicolas Sarkozy, celle d'Emmanuel Macron, celle de François Hollande ?
Dans les trois cas, il y a quand même le choix d'être dans l'Europe et d'être dans l'Europe telle qu'elle est, avec en plus moi le procès sur les 3%, j'y adhère pas parce qu'on a quand même un endettement assez conséquent qui à mon avis dénature notre souveraineté. Donc ne pas vouloir dire on fait pas attention aux 3% et on s'endette encore, je pense pas que ce soit la bonne politique. Ce qui est, à mon avis, ce qui s'est passé là cet été, c'est qu'on a eu l'impression que de nouveau le gouvernement retombait sur des mesures techniques, budgétaires d'ajustement, alors que le projet initial était quand même de transformer pour rendre les politiques publiques plus efficaces. Alors, pourquoi est-ce qu'on est retourné sur ces mesures techniques ? Sans doute parce que, et moi c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est est-ce que le gouvernement va savoir s'y prendre pour reformater des politiques comme celle du logement, comme celle de la formation professionnelle. Il y a eu des tonnes de rapports montrant que c'est pas efficace, qu'on dépense énormément d'argent pour un faible résultat, mais est-ce qu'on a la bonne méthode pour arriver à rendre le système plus efficace et qui profite au plus grand nombre ? Et là, il y a eu comme un doute pendant l'été, peut-être parce qu'on est très démunis. En fait, quand on doit mettre la main au charbon, peut-être qu'on ne sait pas y faire. Et c'est peut-être là le sujet d'inquiétude. Et je pense que c'est là-dessus que le gouvernement doit aussi rassurer. C'est comment il va s'y prendre, quel est son objectif et comment il peut convaincre les Français que ce qui fera émerger sera mieux que ce qu'on vit aujourd'hui.
Gilles Finkelstein, est-ce que vous voyez apparaître, vous, une méthode, justement, quelque chose qui ferait que ces réformes-là, parce qu'effectivement, Françoise Fressoz en a signalé un certain nombre, mais il y aura la retraite, il y aura l'assurance chômage, la formation, l'apprentissage, le logement, en plus donc de la loi travail qui arrive jeudi. Est-ce qu'il y a une méthode Macron qu'on sent qui serait meilleure que les autres ?
Ça, on va voir, puisqu'on en est au tout début. Je crois que c'est pas une alerte rouge, c'est une alerte orange, ce qui se passe pour l'instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une opposition, il n'y a pas une cristallisation, mais il y a une interrogation, un doute. Et ce doute, il porte sur trois dimensions qui ont été évoquées. Il y a celle que vient d'évoquer à l'instant Françoise Fressoz, qui est l'ambition. Est-ce que ce sont des mesures technocratiques qui vont se suivre, ou est-ce que c'est vraiment la transformation, les réformes en profondeur du pays ? Il y en a une qui a été évoquée à la fois par Claude et par Pierre tout à l'heure, qui est l'interrogation sur la justice, le « et droite et gauche », est-ce que finalement ça tombe à droite ? Il y a des mesures symboliques qui ont été annoncées, comme les APL qui ont, je crois, marqué l'opinion. Et puis il y a une troisième interrogation qui est sur l'efficacité. Il y avait une présomption de compétence pour Emmanuel Macron et il y a un doute sur l'efficacité du dispositif politique qui est en place, à la fois pas seulement Emmanuel Macron, mais son gouvernement et sa majorité parlementaire.
Et la méthode, par exemple, celle qu'on voit en ce moment sur la loi travail, qui consiste effectivement à aligner énormément de réunions, puis ensuite on donne une partie de texte, mais pas tout. On voit les gens les uns après les autres, mais pas tout le monde à la fois. C'est le cas aussi des syndicats. On imagine que c'est un petit peu le modèle qui peut se passer dans les jours qui viennent et pour les réformes suivantes. Est-ce que ça a vraiment du sens ? Est-ce que vous avez l'impression que ça donne un dialogue qui est meilleur et qui peut rêver à de meilleures réformes, Brice Teinturier ?
En tous les cas, les partenaires sociaux à date considèrent qu'il y a un dialogue, et que ce dialogue est réel, authentique. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être d'accord, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des oppositions fortes, mais on ne peut pas reprocher à ce gouvernement de manquer de dialogue sur cette question de la réforme du marché du travail. Moi, je crois que ce qui est en train de se produire, c'est d'une part qu'il y avait dans l'équation gagnante d'Emmanuel Macron une agrégation du fameux « et en même temps » et du coup d'une agrégation de sensibilité et de droite et de gauche. Et que cet équilibre-là est absolument essentiel, la faiblesse étant que dans le socle électoral d'Emmanuel Macron, il y a un déficit de suffrage populaire. Donc il est d'autant plus important d'arriver à tenir de manière équilibrée des mesures qui peuvent être acceptées par des sympathisants de droite et des mesures également qui donneront le sentiment aux sympathisants de gauche qu'il y a là quelque chose qui se préoccupe de la justice. Et c'est cet équilibre qui, pour l'instant, n'est pas au rendez-vous. La plupart des mesures qui sont en train d'être annoncées et prises sont des mesures économiques et budgétaires relativement dans la veine d'un Nicolas Sarkozy ou d'une partie de ce qu'a fait François Hollande, parce qu'on se heurte à des problèmes centraux sur la dette, sur les économies et sur le budget. Donc ça peut contribuer au déséquilibre. Et puis le deuxième point fondamental qu'a évoqué Gilles Finkelstein, c'est que dans l'équation gagnante d'Emmanuel Macron, il y avait aussi une promesse de rénovation de la vie politique et de notre système politique, qui ne se limite pas à une loi sur la moralisation du système politique. Et là, en réalité, Emmanuel Macron se retrouve relativement seul. Il n'a pas derrière lui ou avec lui des ministres qui peuvent être des porte-parole efficaces, parce qu'ils ne sont pas connus pour l'instant et qu'ils n'ont pas une légitimité antérieure à leur nomination forte.
Il les a choisis et il leur a quasiment demandé de se taire jusque-là, sauf maintenant.
Et puis cette rénovation, quand on était encore il y a quelques mois, quand il s'agissait de conquérir le pouvoir, il y avait le vieux système. Mais maintenant, c'est Emmanuel Macron et ses équipes qui sont au pouvoir. Donc cette grille de lecture et cette attente positivée de quelque chose de différent et de nouveau, elle ne joue plus. Et avec des mesures qui en plus sont par nature susceptibles de déplaire à des catégories de Français, les salariés du public, le rétablissement du jour de carence aussi, enfin ce genre d'éléments, eh bien il y a un déséquilibre, je crois, dans l'équation gagnante. Et comme le socle, encore une fois, initial, était relativement faible, et que vous avez en plus une France qui a voté Macron, qui était plutôt une France avantagée au plan sociologique, au plan de la richesse, tout ça commence à créer des distorsions fortes.
Et je voudrais qu'on entende Francis qui nous a appelé 01 45 24 7000. Bonjour Francis, bonsoir, bienvenue sur Inter.
Oui, bonsoir. Oui, bien, je voulais confirmer ce qui vient d'être dit d'ailleurs. D'une part que Macron n'a été élu que par 24% des Français. Ensuite, sa majorité avec plus de 50% d'abstention ou de vote. Et on définit, et puis surtout, il n'avait pas de programme, il avait des discours, il avait des intentions, il avait des propositions. Et son programme, nous le découvrons maintenant, et ce programme est un programme libéral purement et simplement. Sarkozy aurait pu faire le même. Donc Macron ne porte pas les intentions et les souhaits de la majorité des Français.
Françoise Fressoz, merci beaucoup pour votre question, Francis. Alors, en même temps, Emmanuel Macron n'avait pas de programme. Au moins, sur la loi travail qui vient, on ne peut pas dire qu'il ne l'avait pas annoncé. Au moins là-dessus,
c'est tout à fait vrai. Mais ce que dit l'auditeur est tout à fait vrai, c'est qu'il a été élu sur l'idée de on va mettre à bas le vieux système. Et il a surfait, exactement comme Jean-Luc Mélenchon, sur l'idée que toute une partie de la classe politique avait failli et qu'il fallait faire du neuf. Donc c'est peut-être ça qui a entraîné la dynamique et c'est peut-être ça qui a fait que des électeurs sont venus sur son projet sans avoir lu dans le détail un projet. Parce que lui, c'est quand même assez revendiqué, assez libéral. Je veux dire, le livre Révolution, il ne cache pas du tout son intention. C'est-à-dire, il n'est pas dans la suppression du modèle français, mais il est dans une adaptation de ce modèle français avec une coopération, une convergence avec l'Allemagne, qui revendique pleinement. Et donc, vous aurez dans son projet des réformes libérales, de libéralisation du marché du travail, et puis de réforme de la formation professionnelle, et aussi d'allègement du système français, qui est quand même un système assez dépensier, mais qui est en perte d'efficacité. Donc il n'est pas social-démocrate, il n'a jamais été social-démocrate Macron, il est social-libéral et il l'a assumé, mais peut-être que aujourd'hui, les électeurs s'aperçoivent qu'effectivement, le sujet ça va être d'introduire plus de libéralisme dans la société française.
Frédéric Mettezot.
Oui, pour corriger un tout petit peu ce que disait Francis, notre auditeur, il y avait quand même des propositions extrêmement concrètes dans le programme d'Emmanuel Macron qui étaient des mesures, on va dire, plutôt populaires et plutôt bien accueilli pendant la campagne. C'est par exemple le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les ZEP. C'est le droit aux indemnités chômage pour les personnes qui démissionnent. Aujourd'hui, c'est compliqué de démissionner et de se relancer si on n'a pas 2, 3, 4, 5, 6 mois de chômage entre les deux. Ces mesures, soit on n'en parle plus, soit on ne sait plus où elles sont passées, soit elles sont extrêmement mal vendues et mal expliquées. J'entendais ce matin sur France Inter que 80% des classes de CP, de ZEP devraient être dédoublées à la rentrée. Ça n'a pas été martelé, ça, les 12 élèves par classe. Ça, c'est une mesure, pour le coup, extrêmement...
Ça l'est en ce moment, quand même, martelé beaucoup.
Attendez... Si on mesure entre ça et les APL, par exemple, en termes de bruit médiatique, en termes d'impact sur l'opinion publique, je pense qu'on a plus retenu. C'est peut-être la faute des journalistes d'ailleurs, et puis c'est difficile de faire des reportages dans des classes pendant que c'est les vacances. Mais c'est vrai que le bruit médiatique s'est plus focalisé sur la réduction du budget militaire ou sur les appels que sur ces 12 enfants par classe de CP.
Bah attendez, justement parce que c'est la rentrée, parce que le ministre Blanquer, il est partout maintenant, mais c'est qu'il Brice Teinturier, c'est qu'il a été envoyé au charbon, comme vous le disiez tout à l'heure. On envoie les ministres au charbon, il faut que maintenant tout le monde s'exprime.
Oui, et puis là, sur en plus le sujet de la rentrée de l'éducation nationale, il y a quand même une logique à ce que le ministre de l'éducation nationale soit maintenant très présent. Mais je crois qu'on peut faire faire toute une série de reproches éventuellement à Emmanuel Macron, mais pas celui de s'être avancé masqué. Durant la campagne, dans ses propositions, tout ce qui est en train de se mettre en place, il l'avait peu ou prou annoncé. En revanche, sur le calendrier, sur le timing, là, il y a des ajustements qui nourrissent aussi une forme de ressentiment et de colère naissante des Français, puisqu'on diffère un certain nombre de bénéfices possibles, notamment en matière de fiscalité, et qu'on met en avant d'abord les efforts demandés. Donc l'équation n'est pas aussi gagnante, voire perdante pour certains, que ce qui avait été mis en avant. Mais sur le fond des propositions, sur la ligne de la politique qui va se mettre en place, on est dans la continuité de ce qui avait été clairement annoncé pendant la campagne.
Et retour au 01 45 24 7000, retrouvez Benjamin. Bonsoir Benjamin, bienvenue sur Inter.
Bonsoir.
Et on vous écoute Benjamin.
Ben, je suis à peu près dans la droite ligne de ce qui vient d'être dit, c'est que j'ai l'impression en fait que la baisse de popularité aussi d'Emmanuel Macron dans les sondages est liée à peut-être des erreurs de communication, mais aussi le fait qu'il fallait d'abord passer la baisse des dépenses, on essaye de récupérer de l'argent un peu partout, donc on va avoir les APL, on va avoir, il me semblait... au niveau de la CSG, ça va se passer avant d'avoir cette redistribution via la taxe d'habitation qui devait être réduite. Enfin, j'ai l'impression en fait que on se retrouve dans une situation où les Français se disent « Ah, les promesses d'Emmanuel Macron, finalement, elles vont arriver dans les prochaines années, mais en tout cas, ça ne sera pas pour tout de suite. » Donc je pense qu'il y a de l'inquiétude aussi à ce niveau-là.
Gilles Finkelstein, peut-être pour répondre à Benjamin. Et c'est vrai que l'équation budgétaire, elle va être extrêmement compliquée.
L'équation budgétaire va être compliquée, comme elle l'est à peu près pour tout gouvernement qui entre en fonction. Il y a cette histoire du calendrier, et elle n'est pas seulement anecdotique, parce que je crois qu'elle pèse beaucoup sur la manière dont les Français lisent l'action d'Emmanuel Macron, et ce qui s'est passé autour de la CSG et des cotisations est extrêmement symptomatique. Au lieu que le débat public se noue sur une réforme qui est une réforme d'ampleur dans laquelle il va y avoir des transferts pour des sommes absolument considérables avec des gagnants et des perdants. La seule question est de savoir à quel moment l'une et l'autre se font et ce faisant, on perd le sens de l'action elle-même. Mais je voudrais revenir quand même sur... Il a été élu sur une promesse, la promesse d'une rupture radicale. Les Français était tout à fait capable de dire quelles étaient les orientations d'Emmanuel Macron au moment de l'élection. Il savait qu'il était européen, qu'il était plutôt libéral, qu'il avait une certaine conception de l'égalité, notamment de l'égalité des chances. Ça, ils étaient capables. Il y avait un programme. Il y avait un programme relativement précis sur beaucoup de sujets. Mais ça n'a pas été l'enjeu de l'élection. Et donc, les Français n'ont pas voté pour ce programme. C'est peut-être ça qu'ils ont le sentiment aujourd'hui de découvrir. Mais c'est pas un programme qui était masqué, c'est un programme qui n'était pas au cœur du débat en dépit des efforts de Frédéric Mettezo pendant toute la campagne.
C'est ça. Et au fond, on l'a pas lu. En fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On n'a pas vraiment lu ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est tout à fait autre chose qu'on a regardé.
On l'a pas lu dans le détail. Il y avait la petite musique européenne. Ça, je pense que c'était très important. Et puis, il y avait l'idée de on peut plus continuer comme ça. Il faut passer à autre chose.
France Inter. Le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Et nous, on va passer à Hervé. Hervé, ça fait longtemps que vous attendez. Je voulais pas éviter votre question puisqu'elle nous vise directement. Allez-y, posez-la, on vous écoute.
Oh non, mais je vais pas...
au sens large. Allez-y, je vous en prie.
D'accord, bon. Vous avez été effectivement comme moi fasciné par la bête politique, par l'ascension d'Emmanuel Macron. Et j'ai l'impression maintenant, avec tous les buzz, style par exemple le déferlement médiatique sur les APL, que vous êtes en train de lui faire payer le fait de son changement de communication en fait vis-à-vis des journalistes. Et quelque part, j'ai l'impression un petit peu que vous êtes un peu comme des enfants que le jouet n'amuse plus et que vous voulez casser quoi maintenant.
Alors Frédéric Mettezo, tiens, c'est vous qui allez répondre. Est-ce que vous aviez un jouet qui a été cassé? Est-ce que vous avez un peu ce sentiment-là? Ce qu'il est en train de nous dire, Hervé, je crois qu'il faut l'entendre, c'est aussi, mais comment ça, ce président qui ne communique pas? Pourquoi il ne reçoit pas? Pourquoi il fait pas des offres? Et alors ça marche pas comme ça, et du coup on lui tape dessus. C'est ça qu'il dit, et c'est une petite musique qu'on entend beaucoup.
Oui,
quand
on lèche, on lâche, on lynche. Bah oui. C'est un peu ce que nous reproche Hervé. Hervé a tout à fait le droit de penser ça. C'est vrai qu'effectivement, quand on est journaliste, on a besoin d'avoir accès à l'information, d'avoir accès à la source ou d'avoir accès à plusieurs plusieurs sources. Or, quand la source se tarit, c'est plus difficile de faire notre travail. Et ensuite, plus profondément, on avait déjà eu ce débat X fois avec les auditeurs d'Inter au téléphone Sun. Je pense que vouloir contourner un corps intermédiaire, qu'il s'agisse des syndicats, qu'il s'agisse de la presse, qu'il s'agisse de critiquer les magistrats ou les professeurs, quand on veut se passer d'un corps intermédiaire, ça frictionne. Je pense pas que, non, on s'est dit pas en conférence de rédaction, tiens, Macron n'a pas voulu faire de off, Macron n'a pas voulu faire de déjeuner, on se venge. Je pense que là, il fait plutôt, il y a une mise en cause d'un corps intermédiaire parmi d'autres, qui a mille défauts, la presse, qui est largement perfectible. Mais je pense que vouloir se passer d'un médiateur, hein, on est des médias, c'est toujours, in fine, plus embêtant pour celui qui s'en prive que celui qui les utilise.
Brice Teinturier.
Écoutez, moi qui ne suis pas journaliste, je voudrais rappeler que le Hollande bashing a démarré quand même extrêmement vite et que pourtant, avec François Hollande, on avait un président qui était au contraire à l'inverse, semble-t-il, de ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire qui était très en relation avec les journalistes. Donc je ne pense pas que l'attitude des journalistes soit dictée par le type de proximité ou de distance qu'aurait le président avec eux. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux spécifiquement liés au mode de fonctionnement des médias. On a évoqué la phrase d'Emmanuel Macron sur les Français qui détesteraient les réformes. Mais cette phrase a souvent été tronquée. La suite de la phrase, dans la bouche d'Emmanuel Macron, était « si on ne les explique pas ». Donc on a aussi des mécaniques qui sont liées à la présence de médias d'information continue et en concurrence, qui font que tout cela s'accélère et qu'il est plus difficile pour un président, quel qu'il soit, je crois vraiment que c'est quel qu'il soit, aujourd'hui d'arriver à se faire entendre de manière un petit peu plus sereine ou en tous les cas dans un laps de temps qui s'est considérablement raccourci.
Il n'y a pas quelque chose d'un petit peu paradoxal à dire que les Français n'aiment pas les réformes si on ne les explique pas, tout en effectivement ne les expliquant pas et le comprenant, se mettant subitement à les expliquer. Est-ce que tout ça n'est pas un tout petit peu baroque quand même, François ?
C'est la pensée complexe du président.
Oui, non, mais je pense que vraiment Macron, en étant élu, voulait être l'anti-modèle de François Hollande. Donc je pense qu'il s'est un petit peu piégé dans ce personnage jupitérien de dire finalement, moi je vais reprendre de la hauteur et redonner un peu de symbolique à cette fonction et laisser mon Premier ministre parler. Je pense qu'il y a aussi typiquement sous la Ve République une difficulté d'articulation entre la fonction de président et de Premier ministre qui doit expliquer, qui doit prendre la parole. On ne le sait pas vraiment. Je pense qu'il y a une troisième élément, c'est que c'est toute cette espèce de révolution qui s'est produite à l'Assemblée nationale, où vous avez un nombre de députés élus absolument nouveaux et qu'il n'y a pas aujourd'hui une articulation optimale entre toutes les fonctions de décision, que ce soit le président de la République, le Premier ministre et le Parlement, et que ce flottement fait qu'il y a une chute de popularité. Et je voudrais encore ajouter une chose, il y a quand même cette particularité de la Ve République en France, de cette élection présidentielle au suffrage universel, qui fait que tout d'un coup, tout un pays s'emballe et tout un pays...
Tous les cinq ans.
Parvient même parfois à faire la révolution dans les urnes, et qu'après, il y a forcément de la désillusion, et je pense que peut-être les journalistes aussi sont touchés par cette espèce de « tiens, on nous a promis la Lune, et finalement, c'est plus compliqué que ça, donc on est peut-être... » aussi nous, en tant que citoyens journalistes, happés vers cette direction-là. Mais je ne pense pas qu'il y ait de règlement de compte à l'égard de Macron qui nous aurait snobés, ça je ne pense pas.
Gilles Finkelstein, vous voulez ajouter quelque chose ? Je vous ai vu réagir.
Ouais, moi qui ne suis pas journaliste, non plus.
Mais vous pouvez rester quand même.
Merci. Je crois qu'Hervé a raison de dire qu'il y a toujours ce risque, mais il n'est pas propre à Emmanuel Macron, de passer de l'adoration à l'exécration et de basculer d'un État à l'autre en un tour de main. Donc il faut essayer de garder de la distance et y compris de la distance critique et y compris de la distance en étant positif. Et moi, je trouve que la manière dont Emmanuel Macron s'est saisi de la fonction présidentielle a été positive. Il a incarné la fonction, il a imprimé un style qui lui était propre, à la fois de la gravité et de la proximité, et un rôle pour le président de la République. Je prolonge ce qu'a dit Françoise Fressoz à l'instant, c'est-à-dire qu'avec cet exercice qui était baroque, pour reprendre votre mot, entre Versailles et la déclaration de politique générale, mais on a vu se dessiner un rôle spécifique pour le président de la République en charge de l'essentiel et le Premier ministre qui avait le pourquoi, le comment, les outils en main. Donc un président de la République plus haut, mais ça ne veut pas dire un président de la République silencieux, et je crois que c'est ça la difficulté devant laquelle il se trouve, a fortiori quand il est isolé, et c'est là aussi, je prolonge ce que vient de dire Françoise Fressin.
Brice Teinturier, très vite, on passe à une question après.
Un tout petit bémol, même si je partage tout à fait ce qu'a dit Gilles Finkelstein, mais un tout petit bémol sur un point qui est que ce président en charge de l'essentiel, le week-end qui a suivi le discours de politique générale de son Premier ministre, a imposé à son Premier ministre, à sa majorité, un rétropédalage sur de nombreuses mesures qui étaient quand même importantes. Donc le brouillage, malgré tout, il est assez vite revenu.
Et ça va dans le sens un petit peu de la question de Denis, que je suis ravi d'accueillir sur France Inter. Bonsoir Denis, on vous écoute.
Oui, bonsoir d'avoir pris ma question. Effectivement, je rejoins un peu l'analyse de Brice Teinturier. Nous avons face à nous, enfin les Français dans leur ensemble, ils ont affaire à un gouvernement et à un président qui sont avant tout techniciens et technocrates et qui ne sont pas porteurs d'un projet véritable de société, même un projet politique, comme l'ont été dans d'autres temps, Mitterrand, Giscard d'Estaing, même Giscard d'Estaing qui était porteur d'un projet sur la loi Veil quand même, qui était un véritable projet de société. Là, finalement, on entend essentiellement un projet économique. Certes, il est peut-être nécessaire de faire évoluer les choses au niveau de la loi travail, qui me semble plutôt une contre-réforme, entre guillemets. Mais les Français ont besoin, on nous explique toujours qu'ils ont besoin de pédagogie, mais les Français ont une lecture aussi très politique. Et malheureusement, la pédagogie vaut peut-être pour les élèves lorsqu'ils sont en situation, justement, d'être éduqués. Mais bon, les Français, je pense qu'ils n'ont pas besoin de pédagogie. Ils ont une lecture très visible de ce qui se passe dans la lecture politique actuellement. Et il me semble que, malheureusement, on soit face uniquement à des, je réitère, à des technocrates et à des techniciens qui ne font pas rêver les Français.
Merci beaucoup pour votre question, Denis. Gilles Wilkenstein, quand j'entends Denis, moi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, vous m'arrêterez si je me trompe. On a l'impression que on a voté en France pour quelqu'un qui voulait sortir des partis, sortir de la politique, la changer, et puis quand il n'y est pas, on a très envie qu'il y retourne. On veut de la politique en France, on veut faire de la politique, on veut de la fracture idéologique, et quand on n'en a pas, on la réclame en fait, non ?
Et oui, chaque peuple a ses contradictions et ses paradoxes. Denis a raison de dire que quand on commence à entendre pédagogie, c'est qu'il y a un gros problème et que les Français ont une lecture politique et ils comprennent assez bien ce qui se passe. Ça veut pas dire que les gouvernements n'ont pas à expliquer. La campagne n'a pas été une campagne technicienne, n'a pas été une campagne technocratique. La campagne a été une campagne éminemment politique et Emmanuel Macron, qui n'en avait aucune expérience, a excellé dans cette campagne politique. Maintenant, la campagne est finie. Et donc, on est dans l'art de l'exercice du pouvoir. Et toute la difficulté, c'est de sortir de petites mesures les unes après les autres, mais de faire ces mesures dans un ensemble qui garde un sens politique, après qu'on peut partager ou ne pas partager, mais de garder un sens politique à ces réformes. J'ai l'impression que le gouvernement et le président de la République ont entendu, mais c'est une autre paire de manches que de le mettre en œuvre.
Frédéric Mettezo ?
Oui, il y a d'ailleurs un petit paradoxe qu'on peut citer. Denis disait à juste raison que c'est une approche essentiellement technocratique, on disait comptable en début d'émission. Le paradoxe, c'est pour ne retenir que Emmanuel Macron et Édouard Philippe, ce sont par ailleurs des littéraires. Ce sont des personnes nourries de sciences humaines dont on pourrait imaginer qu'ils ne sont pas que des énarques, ce qu'ils sont effectivement, des énarques comptables. C'est des personnes qui ont écrit, qui ont lu, qui écrivent, notamment le Premier ministre, plutôt pas mal. Et c'est vrai que toute cette dimension humaniste de culture classique à la française qui pourrait parfois les rapprocher d'un François Mitterrand est complètement occultée depuis l'élection. Et je trouve ça assez paradoxal quand on connaît ces deux personnes, ces deux personnages.
Tiens, une question d'Éric que je soumets à votre sagacité. La seule chance pour Emmanuel Macron de s'en sortir, n'est-ce pas de jouer sur l'image de sa femme ? J'ai envie d'ajouter, ou pas, est-ce que ce serait catastrophique d'aller dans cette direction-là, Brice Teinturier, pardon ?
Oui, je crois que ça ne serait malgré tout pas une solution et pas une bonne solution, parce que les Français ont clairement le sentiment, et avec raison, d'élire quelqu'un qui est leur président. Ils se tournent vers ce président et l'épouse du président, encore une fois, quelle qu'elle soit, quels que soient ses mérites, ne constitue pas le fait majeur dont ils attendent quelque chose de profond. Donc ce n'est pas du côté de Brigitte Macron que viendront les solutions dans la relation
certainement
des Français avec Emmanuel Macron.
Mais en termes d'image, en revanche, il peut se passer des choses qui peuvent être désastreuses aussi dans cette direction-là.
Moi, je suis assez assez jugement plutôt positif hein, sur le, en tout cas la place de Madame Macron pour le moment et la façon dont elle investit le rôle. Je trouve qu'elle commet pas d'erreur. C'est vrai que c'est pas là-dessus qu'on jugera Macron, mais en même temps, regardez aux États-Unis, la femme d'Obama, elle a quand même joué un rôle assez important symboliquement. Et donc, et l'idée de réintroduire un couple à l'Élysée de façon symbolique pour porter l'image de la France, moi je trouve que c'est plutôt bien joué. Mais alors si c'est pour se dire, je vais m'appuyer sur la popularité de ma femme pour m'en sortir, ça marchera pas. Mais
Frédéric Mettez-Orange,
oui, je sais pas s'il y aura un bénéfice Brigitte Macron ou au contraire un handicap Brigitte Macron. En tout cas, il y a un élément factuel, c'est qu'il y a un intérêt pour Brigitte Macron puisque elle ne s'était jamais vendue autant depuis 10 ans. Le numéro le plus vendu depuis 10 ans, le journal Elle, ne s'est jamais aussi bien vendu que depuis ce numéro la semaine dernière avec Brigitte Macron. Allez, voilà. Au moins, il y a de l'intérêt.
On part retrouver Bernard au 01 45 24 7000. Bonsoir à vous, Bernard. Bienvenue sur Intérêt, on vous écoute.
Oui.
Allez-y.
Oui, allô.
Allez-y.
Bonsoir à toute l'équipe. Oui, je me demande et je crains que le mouvement En Marche se retrouve un peu en difficulté politique par rapport aux petites municipalités où les pierres d'achoppement vont s'accumuler. Je pense à la taxe d'habitation, bien sûr, avec donc un budget que les municipalités maîtriseront moins bien. Et puis, deuxièmement, les emplois aidés qui vont disparaître assez massivement, et en particulier pour les petites villes. Est-ce que c'est pas dans ce domaine-là, de ce côté-ci, où le mouvement En Marche va trouver des oppositions déjà constituées, que se trouve le problème le plus grave pour les mois à venir?
Merci pour cette question, Bernard. Gilles Finkelstein, il a raison, Bernard, ou pas?
Oui, il a raison. Alors, d'abord, ce sont dans les collectivités locales, pas seulement dans les petites, où Emmanuel Macron dispose de l'assise la plus faible, ce qui est logique, puisque son mouvement est un mouvement naissant. Il y a non seulement la question de la taxe d'habitation et la taxe des emplois aidés, que Bernard vient d'évoquer, mais il y en a d'autres, en plus, qui viennent s'ajouter. Il y a la question des économies, et avec des économies plus importantes qui vont être demandées aux collectivités locales, locale encore que celle qui avait été prévue pendant la campagne présidentielle. Et donc, on va avoir une difficulté, le gouvernement, le président vont avoir une difficulté avec non seulement les petites collectivités locales, mais avec les collectivités locales dans leur ensemble.
Pardon, Brice Turier, vous vouliez intervenir? Vous vouliez faire un signe de tête?
Je voulais faire le lien avec une des difficultés d'Emmanuel Macron, provient du fait que ceux qui le suivent sont des électeurs ou des Français qui sont plutôt bien insérés, qui en termes de difficultés de vie quotidienne ou de revenus sont plus aisés que le reste de la population. Et que du coup, un certain nombre de mesures, comme la suppression des emplois aidés, indépendamment de leur impact ou de leur pertinence économique, peut apparaître comme une forme d'indifférence ou de dureté à l'égard d'une France qui souffre, à l'égard d'une France qui a du mal à trouver de l'emploi, qui a du mal à s'en sortir à la fin de chaque mois. Et ça, c'est un des enjeux pour Emmanuel Macron, que de ne pas donner le sentiment qu'il ferait une politique dure ou une politique plutôt en direction des catégories aisées que des catégories qui souffrent.
Et déjà, ce qu'on lui reprochait, Frédéric Mettez-Orange, pendant la campagne, c'était le candidat des gens heureux qui avait un travail, Emmanuel Macron.
Des métropoles mondialisées et de la, entre guillemets, mondialisation heureuse. Mais pour poursuivre le débat sur les collectivités locales, il va y avoir un moment important de cette rentrée politique, c'est les élections sénatoriales le 24 septembre prochain, élection au suffrage indirect avec ce qu'on appelle les grands électeurs, mais ces grands électeurs ce sont essentiellement des petits maires, des adjoints, des conseillers municipaux, et là on verra effectivement si toutes les mesures du gouvernement ces grands électeurs décident de le faire payer en ne votant pas pour les candidats En Marche et en laissant le Sénat à la droite, et c'est tout le calcul que fait la droite qui est au contraire elle très bien implantée dans les communes petites et moyennes.
Mais qui a quand même du mal à se faire entendre et écouter en ce moment.
Il y a beaucoup de droite, oui, effectivement.
Oui, comme vous dites,
entre les constructifs et Laurent Wauquiez, il y a un monde.
Françoise Pressoz.
Oui, je suis absolument d'accord avec Frédéric. En juillet, la droite sénatoriale disait c'est fichu pour nous parce qu'il y a eu un tel mouvement des marcheurs pour mettre à bas le système politique. Mmh. Et puis là, on sent qu'ils retrouvent le moral parce qu'ils se rendent compte que toute la politique Macron dans les collectivités locales, ça passe mal et qu'il risque d'y avoir un retour de bâton.
Et est-ce que les parlementaires aujourd'hui, les députés vont où est-ce que les futurs sénateurs plutôt payent pour les députés, en fait, qui se sont pas toujours bien débrouillés, ça a été compliqué le démarrage. Donc est-ce que du coup il y a pas cette espèce de leçon qui dit oui, enfin, alors je sais bien que les sénateurs sont élus différemment, mais on va peut-être pas refaire une deuxième fois ce raz-de-marée là parce que finalement ça fait beaucoup d'amateurisme à tous les étages. Est-ce qu'il peut y avoir un petit peu de ça quand même, Brice Teinturier?
Oui, peut-être un peu, mais je crois que c'est vraiment le corps électoral, la nature du corps électoral et du mode de scrutin qui change fondamentalement les choses et qui fait que l'élection au Sénat, les sénatoriales, vont fonctionner d'une manière tout à fait différente de ce qu'on a connu pendant la campagne avec les législatives. Et de ce point de vue, non seulement on devrait avoir plutôt quelque chose qui sera bien moins puissant, mais une bonne probabilité pour que la droite soit majoritaire au Sénat.
Il nous reste juste 30 petites secondes.
En moins que ça. Frédéric Médéo, il y a une des chances d'Emmanuel Macron, parce qu'on a parlé beaucoup de ses difficultés, une de ses chances, Frédéric Métezeau disait, il y a beaucoup de droite, il y a aussi beaucoup de gauche. Ce faisant, il n'y a pas beaucoup d'opposition où il y en a trop. Et donc, ça, c'est aussi une force quand même pour Emmanuel Macron, c'est qu'il est lent.
Et merci à tous. Merci beaucoup d'avoir essuyé les plâtres avec moi. Je ne vous remercierai jamais assez. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
C'était pas du tout un essai.
Bon, bah, comme ça, vous reviendrez.